15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin généraliste et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont vous allez, dont nous allons prendre soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au secret de la longévité. Avec nos deux invités, Vincent Valinduc, généraliste, et Angèle Ferremag, naturopathe et chef de cuisine, on va tenter de percer les mystères des zones bleues, ces zones dans le monde où il y a un nombre exceptionnel de centenaires en parfaite santé. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de l'herpès labial. Pourquoi l'attrape-t-on et comment s'en défaire au plus vite, il nous dira. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on fait un point aujourd'hui sur la contraception, préservatif, pilule, stérilée. Quels sont ceux que vous préférez aujourd'hui? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de la taille de la poitrine, petite ou grosse. Vous verrez qu'au final, il n'y a aucune règle pour se sentir totalement femme. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Sophie. Écoutez.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Je m'appelle Sophie, j'ai 39 ans. Et sans savoir trop pourquoi, j'ai des bouffées de chaleur. Alors des amis me disent que c'est signe de préménopause ou de ménopause. J'ai pas 40 ans, je suis un petit peu inquiète, alors rassurez-moi, merci.
Alors, je ne sais pas si on va pouvoir rassurer Sophie. Jimmy, est-ce qu'à peine 40 ans, finalement, ça peut être déjà des signes de la ménopause qui approche finalement?
Alors, c'est possible, mais c'est un peu tôt malgré tout. Ça peut être ce qu'on appelle la périménopause, donc tout ce qui précède la ménopause. Mais attention, des bouffées de chaleur peuvent révéler d'autres pathologies, un problème notamment au niveau de la thyroïde, d'autres problèmes au niveau hormonal. Donc, attention, il faut consulter. Mais oui, on peut avoir des symptômes, mais ces symptômes peuvent durer plusieurs années, c'est variable d'une femme à une autre. Globalement, la fertilité diminue vers 37-38 ans et en moyenne, la ménopause arrive vers 50-51 ans en France. Et on peut avoir pendant une dizaine d'années plein de petits symptômes, mais avec encore des cycles qui existent.
Que du bonheur, effectivement, d'être une femme. Alors pourquoi on a justement ces bouffées de chaleur? Est-ce que d'ailleurs, c'est souvent la nuit, je crois, les bouffées de chaleur. Ça ne me concerne pas encore, hein, ça arrivera sûrement un jour. Mais pourquoi on en a tout simplement, si c'est à cause de la ménopause, justement?
Alors, si c'est à cause de la ménopause, c'est lié à un déséquilibre hormonal. À ce moment-là, il y a un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. On a moins d'oestrogènes et l'oestrogène est une hormone importante dans la régulation notamment de la température du corps. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on a moins d'oestrogènes, eh ben forcément, on régule moins bien et on a ces bouffées de chaleur.
Et c'est obligatoire, vraiment? On est obligé de passer par là, par les bouffées de chaleur à
la
ménopause?
C'est plutôt très fréquent. Seuls 20% des femmes n'en auront pas. Et par contre, d'une femme à une autre, ça a des degrés un peu différents. Certaines vont en avoir énormément, d'autres un peu moins et vont finalement avoir une qualité de vie normale. Et on ne sait pas prédire qui aura des symptômes plus intenses par rapport à une autre.
Et bon, pour celles qui ont vraiment des gros symptômes, il y a aussi le traitement hormonal. Bon, il y a encore une étude qui a été publiée il y a quelques jours dans le Lancet qui fait un peu peur, qui revient sur cette histoire d'éventuellement un sur-risque de cancer du sein. Du coup, on en fait quoi de ce traitement? On le prend ou pas?
Oui, alors c'est pas la première fois. Plein d'autres études corroborent ça. Alors, les gynécologues sont très avertis et puis il y a une défiance vis-à-vis des hormones. Les femmes veulent en prendre de moins en moins et à juste titre. Et on sait qu'il ne faut pas excéder un an au maximum de ce traitement. Et puis, il faut essayer d'avoir la période la plus courte possible et faire la balance entre le bénéfice et le risque. Si vraiment les bouffées de chaleur sont vraiment invalidantes, que vous n'avez pas de contre-indication et que votre gynécologue ou médecin traitant vous dit vous pouvez y aller, allez-y, faites-lui confiance. Mais tout ça en réévaluant tous les 3 mois, tous les 6 mois et en prenant ça le moins longtemps possible.
De toute façon, pour ce risque de cancer du sein, à partir de 50 ans, évidemment, une mammographie tous les 2 ans pour vérifier éventuellement ce risque. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Mathias, 19 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Petite question à vous. J'ai pas mal de piqûres sur le bras. Je pense que ça doit être des araignées, je sais pas trop. Je trouve ça vraiment bizarre, ça me gratte tout le temps. Du coup, je voudrais savoir s'il faut que je consulte ou pas. Et s'il y a quelque chose à faire, parce que là, ça me stresse un petit peu. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Alors Jimmy, quand on a été piqué par un insecte, on ne sait pas toujours duquel il s'agit. Est-ce qu'il y a un moyen de distinguer l'araignée, je vois, du moustique
ou
du
bébé? Oui, c'est un peu une inquiétude un peu de parents, d'hypochondriaques. Là, le monsieur, il veut savoir s'il y a une araignée ou un moustique. Dans les faits, on s'en fiche, honnêtement. D'accord. Araignée ou moustique, en France, ça ne change pas grand-chose. On n'est pas dans des zones tropicales.
Il n'y a pas d'araignée trop méchante.
Non. Et on parle plutôt de morsure plus que de piqûre d'araignée. Donc c'est très simple. Si une araignée vous mord, en fait, vous verrez, en regardant de très près, deux points de ponction, deux points de morsure. Un moustique, c'est simplement un petit point de piqûre, mais finalement, le traitement reste le même, donc pas de panique.
Et alors, si, quand il s'agit bien d'une araignée, vous dites, il peut y en avoir plusieurs à côté. C'est normal d'avoir quelques 4-5 boutons au même endroit.
Exactement,
à peu près,
sur la même zone, globalement, parce que l'araignée, finalement, elle va faire un petit chemin, alors que le moustique, il va vous piquer de façon anarchique, le cou, le bras, la jambe. Donc si vous avez plein de boutons sur une petite zone, c'est un peu plus en faveur d'une araignée, mais bon, encore une fois, c'est pas ce qui est le plus important.
Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, d'après ce que vous dites, c'est bénin. On met quoi? Une pommade?
Alors, on peut mettre une crème antihistaminique disponible sans ordonnance à la pharmacie. On désinfecte parce que ça reste une plaie et souvent on a tendance à gratter. Donc on lave bien les mains des enfants, on leur coupe les ongles courts et puis parfois on peut donner un antihistaminique pour essayer de calmer les démangeaisons.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Mathias qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed. Europe 1. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de l'herpès labial. Et puis, on accueillera aussi nos deux invités du jour, le docteur Vincent Valinduc et la naturopathe et chef de cuisine Angèle Ferromag. Ils ont parcouru les zones bleues en Sardaigne, au Japon, au Costa Rica, ces territoires où il y a le plus de centenaires. Ils nous livreront, c'est promis, certains de leurs secrets. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes nos deux invités pour parler longévité. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous avez décidé de nous parler de l'herpès labial. C'est quoi et à quoi c'est dû d'abord?
Alors l'herpès labial, c'est le bouton de fièvre qu'on connaît classiquement et c'est l'infection à un virus qui s'appelle l'herpès simplex virus de type 1.
D'accord.
Donc un nom barbare qu'on a tous eu dans l'enfance. Il y a deux types, le type 1 et le type 2. Le type 1, c'est les infections plutôt ORL. Le type 2, c'est les infections plutôt génitales.
D'accord.
Et donc, on a tous eu ce virus.
Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir eu un bouton de fièvre dans ma vie.
Sauf qu'il reste stocké dans notre moelle, en quelque sorte, un peu comme le virus de la varicelle.
Ah, oui,
et puis, par moment, on fait une récurrence, une poussée de bouton de fièvre, comme on pourrait faire une poussée de zona.
Alors, est-ce que c'est contagieux? Moi, j'ai en tête que c'est très contagieux. Comment ça s'attrape?
C'est plutôt contagieux, donc ce n'est pas le moment d'embrasser votre collègue,
j'en
même si vous en avez.
Non, j'en ai pas envie, ni rien.
Donc, oui, c'est contagieux. Et donc, ça peut s'attraper, mais souvent on fait des récurrences à l'occasion d'épisodes de fièvre, de fatigue, de stress, de surmenage. Il y a ce petit bouton de fièvre qui commence par une sensation de cuisson. On dit tiens, il se passe quelque chose et puis la croûte arrive, c'est pas beau, il faut traiter.
Et ça s'attrape par exemple par un baiser, c'est ça?
Le contact salivaire, donc d'où l'histoire des bisous. On évite les bisous à ce moment-là. Et surtout, on évite les femmes enceintes, on évite les nouveau-nés ou toute personne qui serait un peu immunodéprimée.
J'ai vu qu'il y avait eu des décès avec l'herpès labial. On embrasse un bébé qui vient de naître, qui est tout fragile avec un herpès.
Femme enceinte,
il peut décéder.
Personne âgée ou personne immunodéprimée, on évite absolument. Ça peut être très très grave, alors que pour nous, finalement, c'est un peu moche, mais finalement, on s'en sort bien.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? On met de la pommade dessus. Souvent, on voit les gens qui ont des boutons de fièvre avec un petit point blanc là sur
Exactement.
Le côté, c'est
comme ça pour montrer à tout le monde qu'on a un bouton d'herpès.
C'est
très sympa.
Discret.
C'est pas ce qui est le plus efficace. C'est beaucoup prescrit parce que finalement, on aime bien mettre de la crème, on a l'impression de faire quelque chose.
Il faut bien prescrire quelque chose.
Exactement. Mais ce qui est le plus efficace, c'est de prendre un traitement antiviral qui permet de réduire la poussée et qui est bien plus efficace si on le prend très tôt. Donc, il y a un traitement à prendre. Parfois en monodose, on le prend sur une journée, parfois sur quelques jours. Et ça, c'est le traitement efficace. N'hésitez pas à désinfecter, mettre un petit peu de bétadine, un antiseptique dessus pour assécher. Et surtout, par pitié, on ne le perce pas, on ne l'éclate pas. On n'essaie pas de mettre un milliard de maquillage dessus pour essayer de le cacher. Parce
on
que
le laisse respirer, sécher.
Voilà, exactement. Ouais. Sinon, ça surinfecte.
Et si ça revient, souvent, malheureusement, vous l'avez dit, il est dans nous, ce virus, et puis il peut ressurgir. La prochaine fois, s'il revient, cet herpès, je le soigne de la même manière?
Exactement. On prend ce traitement antiviral. Parfois, chez les personnes qui vont faire énormément de poussées, on leur donne une petite dose de façon régulière. Mais globalement, c'est bien d'avoir un petit traitement de secours comme ça. Si ça vous arrive et il est 3h du matin, un samedi ou un dimanche soir, vous commencez votre traitement et vous n'avez pas besoin d'aller voir votre médecin.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons nos deux invités pour le dossier du jour. Aujourd'hui, on parle de longévité avec le docteur Vincent Valinduc et Angèle Ferromag, naturopathe et chef de cuisine. Bonjour Vincent, bonjour Angèle.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez de sortir un livre qui s'appelle Les zones bleues chez First, qui est en fait le récit d'une incroyable enquête internationale à laquelle vous avez contribué tous les deux. Vous avez participé à une série de reportages pour France 5 cet été dans laquelle vous êtes allé percer les secrets de longévité des habitants des zones bleues. Bah, d'abord, c'est quoi ces zones bleues ?
Une zone bleue, en fait, c'est une zone où il y a une concentration assez dingue de nonagénaires et de centenaires, mais surtout en excellente santé.
Donc il y en a beaucoup au mètre carré, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, hein, c'est ça ? On les a découverts comment ces zones ?
Comment on les a découverts ? En fait, c'est l'un des premiers chercheurs, Gianni Pes, un chercheur italien, il y a une vingtaine d'années, a travaillé sur le sujet. Et il avait une carte et il a commencé un petit peu à colorier certaines zones du globe. Il avait une carte, un stylo bleu, et puis c'est devenu les zones bleues parce qu'il a découvert 5 zones bleues dans le monde.
Jimmy ?
Et justement, elles sont où ces zones bleues ?
Alors, nous sommes allés en Sardaigne, au Costa Rica, en Équateur et au Japon.
Donc, 4 zones bleues, il y en a 5. Il y en a une autre aux États-Unis, je crois, mais vous n'avez pas effectivement été. Et ce qui est frappant dans ces zones bleues, c'est qu'au-delà, donc, vous l'avez dit, hein, du fait qu'il y a beaucoup de centenaires, beaucoup de nonagénaires, ils sont surtout en excellente santé. Ça veut dire quoi être en excellente santé à 100 ans ou 110 ans ?
Bah en fait, ils ont gardé cette capacité physique et mentale assez impressionnante. C'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils sont assez autonomes. Alors après, ils sont très très bien entourés. Mais on aurait pu s'attendre à avoir quelques déclins, soit physiques, soit cognitifs. Et ceux qu'on a rencontrés étaient vraiment en super santé.
Vous avez vu, par exemple, ils font quoi qui nous paraît incroyable, Angèle ?
Bah, par exemple, ils continuent à faire la cuisine, ils continuent à danser, à rigoler, à faire du cheval.
Ils ne sont pas en déambulateur tous,
Du vélo, à entretenir leur potager aussi. Et donc, ils sont hyper actifs, en fait. Ils ne s'arrêtent pas.
Ce qui était dingue, c'était au Japon. On a rencontré Fumi, 88 ans, avec ses copines qui faisaient du bowling tous les matins. Enfin, trois fois par semaine le matin, avec un vrai entraînement. Enfin, c'était canon.
Toutes des 80 ans et toutes hyper excitées au bowling tous les matins.
Ah ouais, c'était comme des... Enfin, elles nous ont... Bluffé. Mis la honte.
Vous-même, vous ne pourriez pas ça, effectivement. Alors, ce n'est pas juste une histoire de génétique. Hein. J'ai vu dans votre bouquin ce que vous dites. Finalement, la génétique, dans ces zones bleues, ça explique que 20% de cette histoire, quoi, c'est ça ?
Oui, en effet. C'est vrai que moi-même, étant médecin, j'aurais pu penser que le patrimoine génétique était responsable de bien plus que ça dans cette longévité, dans cette bonne santé. Au final, il n'en est que de 20% et les 80% restants, ce qu'on appelle l'épigénétique.
Et c'est quoi l'épigénétique justement ?
L'épigénétique, c'est tout ce que notre mode de vie, notre hygiène de vie et aussi notre mental peut impacter sur notre santé.
C'est-à-dire qu'on a nos gènes de départ et puis on peut les faire évoluer en fonction de notre environnement, c'est ça Vincent ?
En fait, effectivement, il y a 4 grands piliers qu'on connaît tous plus ou moins, à savoir l'ADN, l'alimentation, l'activité physique et le lien social. Ces 3 derniers piliers appartiennent à l'épigénétique, soit les 80% sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Oui.
Alors on va passer dans un instant au concret, au secret de ces hommes et femmes à l'espérance de vie prodigieusement longue. Surtout, vous restez avec nous, docteur Valin Duc, Angèle, on n'en a pas terminé.
Europe 1.
Dans un instant, on va donc rentrer dans le concret. Que mangent ces centenaires ? Comment vivent-ils ? Vous verrez que le lien social aussi a son importance et rire aussi, au moins 15 minutes par jour. Ça fait partie des secrets de la longévité. Mais juste avant, je vous laisse avec Trio, c'est l'hymne de nos campagnes.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et nos deux invités du jour, le docteur Vincent Valin-Duc et Angèle Ferremag, qui nous dévoilent quelques-uns des secrets de longévité des habitants des zones bleues, ces zones qui concentrent le plus grand nombre de nonagénaires et de centenaires. Alors vous avez été, Angèle et Vincent, en Sardaigne, au Japon notamment, et ce que vous avez remarqué, c'est que pour faire un beau centenaire, entre guillemets, il y a 4 piliers à chaque fois, la génétique, l'alimentation, l'activité physique et le lien social. On va commencer par la génétique. Par exemple, au Costa Rica, docteur Valin-Duc, le constat, c'est qu'ils ont des gènes, quand on regarde au microscope, ou enfin, en tout cas quand on regarde en détail, qui sont particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ?
En fait, c'est surtout le chromosome. À l'extrémité des chromosomes, il y a ce qu'on appelle le télomère. On est tous munis de télomères et la fonction du télomère est de maintenir la stabilité du chromosome. Plus on vieillit, plus ces télomères se raccourcissent. Une fois qu'on a consommé la totalité de la longueur du télomère, hop, la cellule meurt. Et là, ce qui est fou, au Costa Rica, chez les nonagénaires et centenaires, la longueur du télomère est extrêmement longue. Et en fait, on l'explique parce qu'il y a moins de stress. L'alimentation joue un facteur aussi protecteur. Et du coup, ça contribuerait à avoir une excellente santé.
Et au Japon aussi, il y a une particularité dans zone bleue, la japonaise.
Ouais, Japon, ouais. Docteur Suzuki, qui est le papa des zones bleues là-bas, nous a appris qu'en fait, ils auraient un gène qui les protégerait de certaines maladies inflammatoires type la polyarthrite rhumatoïde, voire du diabète de type 2. Et l'autre particularité, c'est qu'il y aurait un petit côté un peu héréditaire familial. C'est intéressant.
Jimmy ?
Et le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Alors, j'ai compris que vous étiez chef. Qu'est-ce qu'ils mangent concrètement en Sardaigne, par exemple ?
Alors, concrètement, tous, dans toutes les zones bleues, on a remarqué qu'ils mangeaient des aliments du potager. C'est des zones qui sont en fait extrêmement isolées. C'est d'ailleurs souvent des îles, donc un peu protégées de la mondialisation, de l'industrialisation, des pesticides. Et en fait, tous les centenaires qu'on a rencontrés ont consommé toute leur vie des produits qui sortent du potager et pas d'un sachet en plastique, quoi. Donc ça, déjà, c'est très intéressant. C'est des produits qui sont bio, local, etc.
D'à côté de chez eux, quoi, du jardin, hein, vraiment. Ils ne vont même pas les acheter ailleurs.
Qui les, ouais. Voilà, qui les font pousser eux-mêmes.
Donc pas de pizza.
Pas de pizza.
Non, je crois que c'est la plus
importante. Kebab, pas de...
Mais bon, ça marche pas. Ils savent vraiment s'amuser. Mmh. Et quand ils font la fête, ils mangent du cochon, d'ailleurs, comme des cochons.
Ils quand vous êtes arrivés, je crois, en Sardaigne, justement, ils étaient en train de faire une grande fête, je crois, et où ils mangeaient fête, hyper gras. Vous vous êtes dit, oh là là,
mais avec Vincent,
si ils se battent comme
choqués.
Ça, effectivement, c'est pas...
On venait défendre les bienfaits d'une alimentation saine, et là, on les voit se goinfrer de cochon au barbecue, de fromage avec des vers sautants, etc. On se dit, mais qu'est-ce que c'est?
Mais c'est
et
exceptionnel.
En fait, c'est extrêmement exceptionnel, et même ces produits-là, ce sont des produits qui viennent de chez eux. Donc ça n'a rien à voir.
Mais finalement, ils ont une alimentation assez monotone, hein, puisque si on mange toujours ce qu'il y a dans son jardin, donc il pousse à telle saison, bah, on n'a jamais le petit Jap, le petit Chinois, on ne le change jamais, quoi, en fait. C'est ça le secret.
Ça nous a beaucoup intéressé. En fait, ils ont eu toute leur vie, exactement comme leurs parents et leurs arrière-grands-parents, etc., la même alimentation. Et d'ailleurs, Vincent, ça a un impact sur le biotope intestinal.
Oui, c'est ce que nous a raconté en fait Jenny Pest, le chercheur italien. Il nous a dit deux choses. La première, c'est qu'avoir un régime monotone, c'est favorable à la longévité. En fait, voilà, par exemple, je suis normand, mes grands-parents sont normands comme mes parents. Mon système digestif est prédisposé à digérer les aliments qui viennent de la terre de Normandie. Les poireaux, les pommes de terre, les tomates, tout ça, tout ça.
Vous devriez manger que ça.
Exactement. À la saison, bien sûr. Et quand nous, on mange le japonais, le mexicain, l'espagnol, chaque jour de la semaine, on pense se faire du bien et au fait, c'est pas si dingue que ça, ouais.
Jimmy ?
Et ce qui est dingue, c'est qu'au Costa Rica, apparemment, ils consomment beaucoup de sucre, alors que nous, on a tendance à faire la guerre au sucre. Est-ce que ce sucre, il est différent d'une autre? Est-ce que c'est un sucre un peu particulier qui est finalement de meilleure qualité?
Bah oui, ils consomment tous en fait du sucre. Donc en Grèce, ce sera le miel, certains endroits, le rapadura, etc. Au Costa Rica, c'est le maïs qui contient beaucoup de glucose. En revanche, ce sont à chaque fois des produits, encore une fois, qui ne sont pas raffinés, qui ne sont pas industriels, donc qui ne sont pas nettoyés, qui ont un indice glycémique beaucoup plus bas et qui contiennent aussi des bonnes choses. Et ils les consomment aussi beaucoup moins
régulièrement. Donc ce n'est pas le sucre que nous, on a dans les sodas, dans les biscuits qu'on peut acheter au supermarché.
Ça n'a rien à voir, ça ne fait pas de pic de glycémie.
Forcément.
Merci beaucoup. On n'a pas terminé avec vous, docteur Vellinduc, Angèle Ferremag. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on parlera des deux autres piliers de la longévité chez les habitants des zones bleues, l'activité physique et le lien social. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et nos deux invités, le docteur Vellinduc et vous, Angèle Ferremag. Vous êtes naturopathe et chef de cuisine. Et tous les deux, aujourd'hui, vous nous livrez quelques-uns des secrets des habitants des zones bleues, ces zones où fourmillent les centenaires. Et j'ai dit que pour devenir centenaire dans ces zones bleues, il y avait finalement quatre piliers. Donc on a vu la génétique, l'alimentation, ça on en a parlé. Donc le troisième, c'est l'activité physique. Hein. Ça veut dire que par exemple au Costa Rica, où vous avez été, ou en Grèce, tout le monde court le marathon jusqu'à 100 ans? Non, c'est pas ça, c'est un peu excessif peut-être.
Marathon, peut-être pas. En revanche, on a fait des rencontres type Alcides, 88 ans, qui montait à cheval comme pas deux. Moi, n'ayant jamais fait de cheval dans la séquence, vous pouvez me voir tomber, d'après les conseils d'Angèle. Mais c'est juste bluffant de voir, voilà, il a 88 ans, il monte facilement sur le cheval, c'est souple, il dresse le cheval comme pas deux, enfin, il le tient très bien, et alors que j'étais en grande, grande difficulté. Ouais.
Et lui, il tombe pas, c'est ça, Jimmy?
Exactement.
Et en Grèce, quand on regarde les centenaires, apparemment, leur activité physique, eux, c'est l'activité sexuelle qui continue très tard. Donc c'est vrai ça.
C'est vrai, on l'a pas.
On l'a pas vu.
Mais d'après ce qu'on a compris, malgré leur pudeur, ils sont quand même extrêmement actifs.
Jusqu'à quel âge?
On est sur du 80 ans. Et, et ce qui est rassurant, c'est que les études le prouvent. En fait, avoir 21 éjaculations mensuelles protégerait du cancer de la prostate.
C'est beaucoup, 21 éjaculations mensuellement.
C'est un bon rythme. La palpation des seins aussi favoriserait la sécrétion de certaines hormones type ocytocine qui diminuerait le cancer du sein. Et puis, dernier point, il y a des études qui montrent qu'avoir une activité physique sexuelle, à savoir 3 rapports par semaine, permettrait d'avoir l'air de plus jeune de 10 ans.
Et alors, ils vous en ont parlé facilement, ces habitants des zones bleues, notamment en Grèce. Oui, nous, jusqu'à 80 ans, on s'envoie à l'air.
En fait, c'était toujours suggéré. Ils parlaient d'affection, etc., de rapports humains. Et puis, comme on va le voir, le lien social est aussi très, très présent. Donc on l'a un peu deviné. Après, on a plus regardé dans les études. On n'a pas voulu les gêner, mais on a compris. Et puis, ils dansent ensemble, ils se draguent encore.
Ah ouais.
On a même rencontré Maximina qui se faisait draguer par son collègue de 104 ans.
Ouais, c'était la compète. Ouais.
Donc, ils sont là.
Et justement, dans ces zones bleues, alors c'est pas il y a plus d'hommes ou de femmes finalement qui sont centenaires ou nonagénaires ?
Ça dépend des endroits. En Sardaigne, c'est plutôt les hommes qui sont principalement majoritaires par rapport aux femmes. Mais c'est assez diversifié en fait en fonction des destinations. Ouais.
Jimmy ?
Et l'activité physique passe aussi par le travail. Alors, c'est vrai qu'ici on n'aime pas beaucoup travailler parfois, surtout Mélanie.
On dit que le travail c'est la santé
néanmoins. Ouais.
Mais du coup ça passe aussi par une activité jusqu'à très tard dans la vie.
En fait ils s'arrêtent jamais de faire des choses. Ils sont jamais en chaise roulante à regarder la télé ou à jouer au bridge toute la journée. Ils ont toujours ils font ou du bowling ou ils ont souvent un rôle aussi au sein de la famille. Donc, ils font la cuisine, ils s'occupent du potager, ils s'occupent du ménage, ils s'occupent
des choses très physiques.
Oui, c'est très physique.
Il y a même Johanna, je crois, 108 ans, qui est toujours avec son métier à tisser à 108 ans. Donc, elle travaille toujours.
Toujours active, effectivement. Elle fait des couvertures et des couettes qu'elle redonne. Et puis, on a également rencontré Giovanni en Sardaigne, qui, depuis l'âge de 11 ans, était dans les montagnes et a fait son activité physique comme ça. C'est-à-dire, c'est des milieux un peu escarpés. La topographie, il n'y avait pas de route, c'était pas bétonné. Donc, obligé de monter dans les chemins un peu de terre, c'est son activité physique et je pense qu'on rentre dans les 10 000 pas recommandés par jour.
Oui, largement, c'est sûr. Alors enfin, le dernier pilier pour avoir une longue vie, c'est le lien social, on en a parlé. Ça, dans les 4 zones bleues que vous avez visitées, ça ressort à chaque fois. Ça veut dire quoi, concrètement ?
Mais les personnes âgées ne sont jamais isolées, en fait. Elles sont toujours au sein de la famille. On s'occupe d'elles, donc on prend soin, on voit beaucoup mieux, évidemment, quand elles vont mal. On leur offre aussi une vraie place au sein de la famille. Elles ont un rôle, donc elles se sentent encore actives. Et elles sont stimulées toute la journée. Et puis surtout, c'est des gens qui les aiment, qui s'occupent d'eux. Donc ça
veut pas dire qu'on n'aime pas nos centenaires.
Non, bien sûr,
France,
on est loin des EHPAD et des maisons de retraite.
Bah justement, nous, on est finalement un peu à côté de la plaque. Alors, EHPAD, c'est particulier parce qu'il y a la maladie qui s'installe. Maison de retraite, c'est un peu une autre ambiance. Finalement, on est un peu à l'ouest.
En France ?
Bah voilà, on sait qu'on peut quand même un peu agir en côtoyant un peu plus nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, en jouant avec eux à des jeux de société, en leur posant des questions pour aussi stimuler.
Nous, on les cache un peu en France, c'est bizarre de dire ça, mais là-bas, on les célèbre même, je crois, en Sardaigne.
Oui, en Sardaigne, en fait, ils ont tous les centenaires qui ont passé la barre des 100 ans, qui sont décédés, sur les murs de la ville, une photo à leur effigie. Il y a d'ailleurs un parcours un petit peu touristique qui célèbre les centenaires. Effectivement, ils sont très fiers de leurs ancêtres.
Le parcours du centenaire, faire comme ça, c'est la sortie du week-end.
Ouais, alors que nous, on fait la fête des voisins hypocrites, alors qu'on ne connaît même pas nos personnes âgées sur le palier. Donc voilà, on arrête.
Je pense qu'il va falloir, à mon avis, réintégrer un peu l'image positive de la personne âgée au sein du foyer.
Il y a leurs photos comme ça dans la ville, un peu partout, de ceux qui sont partis, mais qu'on a aimés.
Avec leur surnom, leur petite histoire.
Les photos, c'est des posters, quoi. Exactement. Donc ça veut dire que finalement, en France, on a tout faux. Donc Jimmy le disait, les maisons de retraite, c'est peut-être pas l'idéal. Ça veut dire qu'il faudrait tous qu'on garde nos parents et nos grands-parents à la maison pour qu'ils vivent centenaires. Alors bon, après, ils ont peut-être pas envie, mais. C'est ça qu'il faudrait faire, c'est prouver que rester à la maison avec ses enfants, ça aide à vieillir plus tard.
Le lien social est prouvé scientifiquement, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice mutuel entre vous qui vous occupez de vos proches et vos proches qui se sentent bien parce qu'ils se sentent on s'occupe d'eux. Ça, la science le prouve finalement, il y a des hormones de bien-être contre le stress, c'est protecteur au niveau du système cardiovasculaire.
Et apparemment, moi j'aime beaucoup me plaindre, je suis toujours à ronchonner.
C'est français quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, mais contrairement, apparemment, eux, c'est plutôt le contraire, ils ont tout le temps la positive attitude, sont tout le temps apparemment de bonne humeur et très contents. Ça a dû vous marquer.
Ça, je pense que c'est une des choses qui humainement nous a le plus marqué. Dans les quatre zones, évidemment, on peut pas faire les choses parfaitement et tout d'un coup se dire bon, je vais vivre avec ma belle-mère jusqu'à la fin de ma vie, manger que du poireau et tout. Mais par contre, on peut faire certaines petites choses. Et c'est vrai que quand on voit que ces gens, en fait, qui ont eu des vies souvent extrêmement difficiles, bien plus que les nôtres, c'est des gens très pauvres qui n'ont pas eu accès à beaucoup de confort, etc. Mais ils ont tous en commun d'avoir décidé de prendre les choses du bon côté. Donc même s'ils ont perdu des enfants...
Pas de dépressif là-bas dans les centenaires.
Il n'y a pas de dépressif et le verre est toujours plein.
Il y en a toujours, j'exagère un peu. Ouais,
je pense que les aidants doivent être fatigués.
S'ils sont aussi dynamiques, ces centenaires, effectivement. Au Japon, par exemple, on cultive le riz dans la zone bleue où vous avez été visité. Ces centenaires, ça aussi c'est prouvé, pour mieux vieillir, il faut rire là-bas. On appelle ça l'ikigai, je crois, c'est quoi ?
Alors, on appelle ça le rakugo.
Ah oui, moi, j'ai pas du tout le bon nom.
Non,
là.
Mais c'est pas loin. L'ikigai, c'est le fait de trouver un sens à sa vie et donc d'avoir un but sur Terre qui aussi joue énormément. Le rakugo, c'est le fait de faire une blague et puis dont la chute est rigolote.
D'accord. Les stand-up donc, locales, oui.
Ils se font marrer.
Entre centenaires, ils se font marrer comme ça. Donc, donc c'est pas l'ikigai, c'est le
Rakugo.
Donc on fait des blagues
et
entre centenaires.
Et on est rakudoka quand on fait la pratique du Rakugo.
Génial. Bah, écoutez, on va essayer pour tous vivre centenaire. Il faut rigoler beaucoup. Au moins 15 minutes par jour. Merci beaucoup, docteur Valinduc.
Merci
et vous aussi,
vous.
Angèle Fermag, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on a pu percer quelques secrets de ces centenaires qui peuplent donc les zones bleues du globe. Merci encore.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Cette semaine, on s'est intéressé à la contraception, préservatifs, pilules, stérilés. Quels sont les moyens que vous utilisez? On vous donnera des conseils pour choisir la bonne contraception pour vous. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Cette semaine, on parle de contraception et justement Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. Vous êtes plus pilule, stérilé, préservatif. On écoute son micro-trottoir.
Préservatif. On a quand même été quelque part un peu éduqué à faire attention à sa propre santé et puis à celle des autres aussi.
Ah bah le risque ce sont les maladies.
Ça peut être le VIH, comme des chlamydias, comme la syphilis.
La pilule, c'est cancérigène. De toute façon, le principe d'avoir des hormones qu'on ajoute dans son corps, c'est un principe qui est bizarre.
J'ai un stérilet. On va chez le gynécologue qui nous le pose. C'est un moyen de contraception qu'on ne peut poser qu'une fois qu'on a eu des enfants.
Je ne me protège plus. C'est fini ce temps-là. Parce que je suis toujours avec la même personne depuis un petit temps et que voilà, ça n'a plus de raison d'être.
Alors d'abord, en réalité, des moyens de contraception, il y en a beaucoup, mais on va dire qu'on s'est concentré aujourd'hui sur les trois plus connus. On a fait le préservatif, la pilule, le stérilet. Mais Jimmy, est-ce que dans les trois qu'on vient de citer, est-ce qu'il y a un moyen finalement qui est meilleur que l'autre ou plus efficace, quoi?
Alors, le préservatif, quand même, c'est le moins bon des trois. Mais c'est le seul qui protège contre les infections sexuellement transmissibles, donc on en parlera après. Et puis finalement, il n'y a pas un moyen de contraception adapté, c'est celui que vous préférez, celui qui vous est possible de prendre, parce que parfois on a des contre-indications, parfois au gré de la
pour
vie.
Pour des raisons médicales,
exactement,
par exemple, on ne peut pas
prendre d'hormones. Exactement, après un cancer du sein, par exemple, on ne peut pas prendre d'hormones. C'est celui qui vous sera le plus efficace en fonction du stade où vous en êtes dans la vie. Vous
pouvez commencer avec, en couple,
voilà, exactement, ou commencer avec une pilule et puis passer un stérilet, et puis finalement le stérilet ne vous plaît pas. Donc en tout,
on oublie tout le temps la pilule parce qu'on a des horaires décalés. Donc, il vaut mieux
donc c'est à vous
chose,
de décider avec votre médecin généraliste, la sage-femme qui prescrit aussi la contraception, ou le gynécologue. Donc il n'y a pas un moyen de contraception, il y a des moyens de contraception.
Et puis on peut changer effectivement d'avis dans la vie, ça peut évoluer effectivement à un moment ou à un autre. Alors quand même, la pilule en France, on sait que longtemps ça a été le moyen le plus à la mode, jusqu'à l'affaire des pilules de troisième génération, mais on est d'accord, ça reste quand même le moyen le plus efficace a priori.
Alors c'est quasiment ex-aequo avec le stérilet. Il y a ce qu'on appelle un indice qui s'appelle l'indice de Pearl et qui fait qu'on prend 100 femmes qui prennent un traitement, que ce soit une pilule, un préservatif ou autre, un stérilet, et on voit combien finalement vont tomber enceinte. Et finalement, le plus efficace, de façon ex-aequo, c'est pilule avec stérilet.
C'est combien?
C'est au-delà de 99%.
Ah oui, c'est quasiment
Même 99%, on n'est pas loin du 100% d'efficacité.
La condition de bien...
Exactement, dans les faits, une fois qu'on applique l'utilisation pratique, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment ce que les gens font, on se rend compte qu'il y a forcément des erreurs, on ne prend pas toujours au bon moment, donc finalement la pilule serait un peu moins bien que par exemple un stérilet.
Oui, parce que le stérilet, il reste en place, alors que la pilule, effectivement, on peut l'oublier, on peut vomir, il peut y avoir une interaction avec un autre
médicament. Exactement, des inductions, exactement. Donc attention, on ne prend pas n'importe quel traitement lorsqu'on prend une pilule. Donc,
Et on entendait dans le micro-trottoir une femme qui disait la pilule, oulala, c'est cancérigène. Alors vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, les hormones, les femmes en veulent de moins en moins, mais cancérigène, certes, il y a eu cette histoire de pilule de troisième génération, mais ce n'était pas un risque de cancer que les femmes avaient en prenant ces pilules de troisième et quatrième génération. C'était un risque de thrombose, je crois.
Exactement, risque de thrombose, donc manifesté par des phlébites ou une embolie pulmonaire.
Ça se bouche, c'est ça.
Exactement, c'est des caillots qui se forment au niveau des vaisseaux, des jambes, mais qui peuvent remonter et donner une embolie pulmonaire. Et donc ça, c'était plutôt dans les années 2000-2013. Et donc à partir de ce moment-là, les 3e et 4e générations, on ne les a plus remboursées, elles sont quasiment plus, prescrites.
Quasiment plus,
et donc on prescrit des 1ère et 2e générations, mais malgré tout, on se rend compte qu'il y a une défiance vis-à-vis des hormones et on ne prend pas maintenant des hormones plus facilement, plus d'hormones qu'auparavant.
Le stérilet finalement est devenu très à la mode.
Ça marche très bien, exactement. C'est vrai, les stérilets, on peut choisir au cuivre ou aux hormones. Et d'ailleurs, attention, il y a une association qui est dangereuse, c'est pilule, donc avec hormones, migraine et tabac. Là, si vous associez les trois, évidemment que vous avez un sur-risque de faire des événements de phlébite. Donc attention, il faut dire à votre médecin si vous êtes migraineuse ou si vous fumez.
Un mot pour terminer sur le stérilet, justement. Hein. Dans le micro-trottoir, là encore, il y avait une dame qui disait le stérilet, faut, c'est que juste quand on a eu un bébé. C'est faux,
c'est faux,
fois,
c'est faux, c'est faux. C'est une idée reçue, beaucoup pratiquée par certains gynécologues. Maintenant, le stérilet, même si vous n'avez jamais eu de grossesse, même si vous n'avez jamais accouché, vous pouvez le prendre, si, le mettre, si jamais vous voulez le faire. Donc, allez voir une sage-femme, elle vous le posera et ça coûte pas très cher, c'est remboursé par la sécurité sociale.
C'est plus facile parfois que de trouver effectivement un gynécologue. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler de la taille de la poitrine, petite ou grosse. Vous verrez qu'au final, il n'y a aucune règle pour se sentir totalement femme.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, on va parler de taille des seins, avec cette question pour commencer, que nous a envoyée Aline, 19 ans, je vous la lis. J'ai de tout petits seins, alors que toutes les femmes de ma famille, ma mère et mes sœurs, je suis la petite dernière de la fratrie, sont-elles bien loties? Cela me fait avoir le sentiment de ne pas être encore une femme. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, d'abord, je crois qu'il faut rassurer Aline. Hein, à 19 ans, grosso modo, il peut se passer encore plein de choses avec sa poitrine, non? Je pense.
Oui, bien sûr, il peut d'abord...
Des grossesses ou je ne sais
quoi.
Oui,
exactement, voilà. Elle va évoluer cette poitrine. La question est de savoir aussi si on lui en donne la possibilité ou si on se réduit à une position de petite dernière définitivement. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être à l'ordre du jour pour elle.
Est-ce que c'est fréquent ce genre de questions sur la taille des seins et donc cette question autour de la... Est-ce que c'est finalement les seins, c'est vrai que c'est la féminité par excellence. Donc c'est, j'imagine que vous devez en entendre beaucoup de ce type de questions.
Bah, la question de la taille, ce n'est pas qu'une question féminine, c'est aussi une question masculine. Et surtout, ces organes extérieurs mesurables. Puisque finalement, qu'est-ce qui définit notre féminité si ce n'est que ce que nous actons et ce que nous vivons au quotidien? Et très souvent, nous cherchons des preuves extérieures qui démontrent à l'autre que nous sommes légitimes dans notre position féminine ou masculine. Là, en l'occurrence féminine.
Jimmy ?
Ça paraît un peu bizarre comme question, mais est-ce que c'est comme la taille du sexe de l'homme ? Finalement, la taille compte ?
Absolument.
Est-ce que des hommes peuvent aimer des petites poitrines ? Ou finalement, il faut que toutes les femmes aient de gros seins pour satisfaire un peu le regard et la curiosité des hommes ?
En fait, je crois que tous les hommes cherchent à voir qu'une femme a des seins, puisqu'ils cherchent à voir ce qui démontre qu'elle est une femme, en effet. Mais tout le monde n'a pas une même expérience, une même lecture des seins. Selon, pour certains, eh bien, des gros seins seront symboles d'une femme qui est nourricière et donc est généreuse, et ce sera très excitant. Pour une autre, nourricière, ce sera très maternel, donc pas du tout excitant, et même anxiogène. Eh bien, effectivement, ça raconte ce que l'on contient, et évidemment que ce n'est que le fantasme derrière qui va se jouer. Et puis, il y a des hommes qui sont beaucoup plus tranquilles avec des tout petits seins.
Parce que tous les goûts sont dans la nature, finalement. En plus, il y a des hommes qui vont trouver des tout petits seins très féminins, au contraire.
Exactement, et beaucoup plus rassurant, beaucoup plus excitant, parce que pas une évidence, justement, à découvrir alors que les gros seins s'imposent. Et d'autres, au contraire, vont aimer les gros seins parce que ces gros seins sont pleins de possibles, s'offrent généreusement, offrent une idée de gourmandise à la bouche vorace, symboliquement de l'enfant, bien sûr, au départ.
Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle accepte ces petits seins? Est-ce que le regard d'un homme aimant justement ses seins pourrait la satisfaire, ou est-ce qu'elle peut trouver elle-même des moyens de satisfaction pour s'accepter et être épanouie?
Je crois que la première des choses, c'est évidemment que, idéalement, c'est pouvoir s'accepter soi-même. Et pour ça, voir que ses seins, petits ou gros, de toute façon, sont des seins vivants. Ils réagissent, ils sont excitables, ils sont délicats, ils sont en harmonie avec un corps. Mais bien évidemment que c'est difficile de se départir du regard des autres. On cherche beaucoup à se réparer dans le regard des autres. Et l'amour de l'autre, l'excitation de l'autre, la fascination de l'autre vient rencontrer la possibilité de ce chemin de réparation. Mais certains, vous avez beau leur dire qu'elles ont des seins magnifiques, qu'elles ont des seins excitants, et bien pour autant, elles sont fâchées et elles sont fâchées pour des histoires très personnelles, historiques, peut-être la lecture de la femme, la lecture qu'on
là,
avait sur elle.
Est-ce qu'on parle aux autres femmes de sa famille aussi? C'est ça, peut-être qu'il la bloque. Si elles ont toutes des énormes seins, peut-être qu'effectivement elles se sentent très différentes par rapport à sa mère, à ses sœurs. C'est
oui,
ça, le problème.
Mais si ce sont des femmes qui sont épanouies là-dedans, mais si en fait ça raconte l'histoire de la construction de ces femmes les unes avec les autres et la domination des unes par rapport aux autres, le pouvoir qu'elles délèguent aux unes contrairement à elle, et donc de fait, ce qui entraîne le fait que tout d'un coup, elle a donné à ses seins l'idée qu'ils étaient défaillants par rapport à l'idée de du super pouvoir que pouvait avoir sa mère ou ses sœurs.
Jimmy ?
Et est-ce que la solution finalement, ce ne serait pas tout simplement de faire augmenter le volume de ses seins en mettant des prothèses ? Est-ce que ça lui donnerait vraiment confiance ? Ou est-ce qu'elle peut peut-être passer autrement ?
Et je crois qu'il y a des femmes qui, en effet, ont besoin d'avoir recours à la chirurgie esthétique parce que ça vient vraiment réparer quelque chose, notamment quand ils sont abîmés, plus que des petits seins. Parce que ce que j'observe, c'est que quand j'ai des patientes qui, à l'inverse, font des réductions, ma mère, parce que quand elles étaient jeunes, c'était difficile pour elles d'accueillir leur gros sein qui est une sorte de jetée dans la fosse au lion de la vie de l'adulte, et qu'elles se font réduire les seins. Et puis après, elles se disent « mais pourquoi je les ai ?» Parce que néanmoins, il y a toujours des cicatrices, même si elles sont très bien faites. Et du coup, il y a quelque chose de douloureux par la suite. Je crois qu'il faut attendre, il faut savoir à quoi on joue avec ça, avec son corps. Maintenant, certaines y trouveront effectivement un lieu de réassurance. À condition toutefois qu'on ne fasse pas les seins de l'autre, les seins de l'homme avec qui on est, mais bien ceux qui correspondent à une lecture et de soi-même.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h.